Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour 3 jours à Amsterdam où se réunissent toute cette semaine scientifiques, politiques et acteurs communautaires impliqués dans la lutte contre le sida. Une conférence internationale, la 22e édition, avec pour thématique « Briser des barrières, construire des ponts ». Cette lutte contre le sida s'articule, on le sait, depuis longtemps autour de cette approche plurielle, médicale, sociétale et juridique. Et aujourd'hui, dans Priorité Santé, pour la première de nos 3 émissions enregistrées ici à Amsterdam, nous vous proposons un état des lieux, les chiffres, les dernières statistiques sur le nombre de personnes vivant avec le VIH, de personnes traitées et aussi de décès, les traitements disponibles et leur évolution, les politiques et outils de prévention, les initiatives de terrain. Photographie donc de l'épidémie à l'occasion de cette conférence internationale et aussi les travaux engagés pour demain, un aperçu de ce qui est en train de se préparer dans les laboratoires, les expériences engagées, les pistes explorées et toujours sur le terrain, les projets et les études porteurs d'espoir. On va donc parler de la recherche, des dernières publications, mais aussi des impulsions à donner en termes de respect des droits, de lutte contre la stigmatisation et d'accès aux soins. Car la plus brillante et prometteuse des découvertes scientifiques ne peut se transformer en succès qu'une fois mise à la portée de toutes et de tous. État des lieux de la lutte contre le sida à l'occasion de cette 22e conférence de l'IAS Amsterdam, émission réalisée en partenariat avec Expertise France à travers l'initiative 5%, contribution de la France au Fonds mondial pour renforcer l'impact des programmes de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et autour de notre table, 4 invités. Tout d'abord, professeure Françoise Barré-Sinoussi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'actuelle présidente de SIDAction, co-découvreuse du VIH, découverte qui vous a valu en 2008 le prix Nobel de médecine. Avec nous également, professeur Serge Ollier, bonjour.
Bonjour, Caroline Paré.
Vous êtes médecin au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU Trècheville. Vous enseignez à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Des illustrations aussi, avec des expériences, des études de terrain au Congo, projet de recherche que vous dirigez sur les résistances du VIH aux antirétroviraux. Docteur Dominique Mambou-Sonde, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin au centre de traitement ambulatoire de Brazzaville. Autre projet, cette fois dans la région d'Abidjan, projet PrEP en Côte d'Ivoire. Vous en êtes le coordinateur national, docteur Camille Anoma, bonjour.
Bonjour Caroline.
Et en Côte d'Ivoire, vous dirigez l'ONG Espace Confiance.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Françoise Barré-Sinoussi, vous avez personnellement été entre 2012 et 2014 à la tête de l'IAS, hein, co-dirigé aussi le comité d'organisation de la conférence jusqu'à l'année dernière. Alors vous êtes plutôt bien placé, on peut le dire, pour nous expliquer, pour dire aux auditeurs pourquoi c'est aussi important, pourquoi finalement c'est toujours utile ce type de très grande conférence internationale sur le sida.
Je pense que c'est la rencontre tous les 2 ans, justement, de tous les acteurs impliqués dans cette lutte contre le VIH-SIDA, que c'est le seul lieu, finalement, où tout le monde peut se rencontrer tous ensemble, et que, vous l'avez dit vous-même en introduction, ce qui caractérise justement cette lutte contre le VIH-SIDA, c'est ce lien fort entre les chercheurs, le personnel soignant, le milieu communautaire, les personnes affectées par le VIH-SIDA, les politiques qui sont présents aussi en général dans cette conférence avec la présence d'un certain nombre de ministres. Donc c'est le lieu où on peut faire passer aussi des messages auprès des politiques par votre intermédiaire, parce que les médias aussi sont présents depuis la création de cette conférence internationale sur le sida, qui date quand même pour la première, si je me souviens bien, de 1985 à Atlanta.
Alors, conférence pour présenter des travaux, des recherches, on a dit un énorme espace de partage, bien sûr, se rencontrer, se mobiliser. Et on va profiter de cette occasion pour s'arrêter sur des chiffres, des projets. C'est vrai qu'on entend dans les journaux parler du sida. On n'a pas toujours toutes les dernières données en tête pour livrer cette sorte de photographie de l'épidémie actuelle. Professeur Serge Ollier, les dernières statistiques mondiales en termes du nombre de cas, est-ce qui intéresse vraiment aujourd'hui la communauté en termes de nombre de personnes prises en charge ?
En termes de nombre de personnes prises en charge, on a à peu près 22 millions. 21 700 000 personnes sous traitement antirétroviral, avec encore de fortes disparités régionales. La majorité des patients est suivie en Afrique de l'Est et du Sud. On a pratiquement 13 millions de patients. On en discutera peut-être plus tard. Il y a un retard en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je pense que ça a été relevé par ONU-SIDA. Et globalement, l'accès au traitement est meilleur. Elle se fait de plus en plus. On est encore loin des 90, mais on pense 90. On en discutera aussi. Mais il y a quand même une augmentation exponentielle des patients sous traitement antirétroviral.
Ça veut dire qu'il y a un mieux vraiment sur la prise en charge, mais l'effort doit continuer.
L'effort doit continuer au niveau de la communauté, l'effort doit continuer au niveau surtout du dépistage. La porte d'entrée, c'est le dépistage. Et on a encore de gros obstacles concernant le dépistage. Il y a un an sur votre antenne, je disais où sont les hommes. La question reste encore posée. Il faut qu'on puisse atteindre les hommes. Et l'autre question qui est importante à poser, il ne s'agit pas de mettre les patients sous le traitement, c'est de les maintenir sous traitement. Et la rétention pose problème. Dans la majorité des pays, on parle de l'Afrique globalement, l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'Europe de l'Est reste un souci.
Près de la moitié des personnes infectées aujourd'hui traitées par ARV, professeur Françoise Barré-Sinoussi, ça signifie quoi dans leur quotidien ? Ça signifie que pour un certain nombre d'entre elles, on va parler concrètement, ils tombent moins malades ?
Ah ben, il n'y a pas de maladie. Hein. Je veux dire, voilà. L'infection VIH sous traitement est une condition chronique. Ça n'est plus une maladie en soi. Néanmoins, il faut que ce traitement soit pris absolument tous les jours pendant toute sa vie. Donc, c'est sûr que c'est contraignant pour certains patients. Pour d'autres, finalement, qui n'a pas pris tous les jours quelques médicaments pour traiter une pathologie. Je pense au diabète, par exemple, où les personnes sont traitées tous les jours. Néanmoins, c'est effectivement contraignant. En plus, il peut y avoir, sur le long terme, sous traitement, ce que l'on appelle, nous, les comorbidités non-sida, c'est-à-dire le développement de maladies cardiovasculaires, de cancers, de désordres neurologiques, de troubles du métabolisme, y compris d'ailleurs le diabète que je mentionnais il y a un instant, et que ça, c'est quand même, et ça reste un problème aujourd'hui qu'il nous faut résoudre pour les stratégies du futur dont on parlera peut-être tout à l'heure, parce que pour moi, j'arrive pas à séparer justement ce problème des comorbidités de la recherche de nouveaux traitements du futur, puisqu'on sait que ces comorbidités sont liées au fait que le virus quelque part reste toujours présent sous traitement et que en plus il y a des anomalies de la défense immunitaire qui restent aussi présentes à bas bruit sous traitement et que ces anomalies sont probablement aussi à l'origine des pathologies que je viens de mentionner comme le cancer et les maladies cardiovasculaires ou autres. Donc tout ça est à prendre en considération tous ensemble. Et puis, on voit bien, justement, la nécessité de passerelles entre les disciplines. On peut plus parler de VIH tout seul ou de recherche sur le VIH tout seul. Il faut aussi travailler avec les autres qui travaillent dans le domaine du cancer ou dans le domaine d'autres pathologies.
Une dynamique commune, donc, de recherche et de prise en charge. Vous avez cité rapidement, professeur Serge Ollier, ce 90-90-90. On le rappelle à chaque émission sur le sida. C'est pas grave, on recommence. Donc, 2020, cet objectif fixé. À un moment, on a dit, on va peut-être y arriver, vu les succès, vu les avancées. Aujourd'hui, certains espoirs sont un petit peu freinés, mais on continue quand même pour essayer d'arriver. 90% de personnes sous ARV, on n'y est pas. Et dans certaines régions, on n'y est pas du tout.
Avant d'être sous ARV, il faut être dépisté.
C'est la base. C'est le premier des 90.
C'est le premier des 90. Et globalement, lorsque vous regardez, on va dire, en Afrique, d'abord, et dans le monde entier, on a moins de 70% des personnes qui sont dépistées. Il y a des pays qui font bien, qui ont déjà atteint les 90, mais en fait, ce sont de bons élèves. On aimerait que toute la classe ait plus que la moyenne. Et en Afrique de l'Ouest et du Centre, on a à moins de 50%.
Je vais vous poser cette question peut-être un peu choquante. Pourquoi on est moins bons élèves en Afrique de l'Ouest et du Centre ?
Pourquoi on est moins bons élèves en Afrique de l'Ouest et du Centre ? Peut-être parce qu'on a eu de moins bons enseignants, on pourrait dire ça. Il s'avère que, je pense l'avoir dit, il faut apprendre à démédicaliser. Tant qu'on n'aura pas la communauté au centre de ce dépistage, on ne pourra pas augmenter le dépistage. Ceux de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud ont fait une approche communautaire d'abord. Et je pense qu'ils sont venus ensuite vers le médical. Si on fait cette approche communautaire, il est clair qu'on pourra augmenter le taux de dépistage. On pourrait parler de financement, je pense qu'on en discutera avec des personnes peut-être plus autorisées. Mais on aura beau avoir les plus grandes sommes possibles, on ne sera pas novateur, rien ne va changer. Rien ne va changer. Et ça vaut aussi pour la rétention. Donc, qu'on soit en 2020 à ces chiffres qui sont pas satisfaisants, on n'aurait pas eu ces objectifs. Peut-être qu'on sera à 30% aujourd'hui. Donc, je crois qu'on a fait de grands efforts. Il faut continuer. On va dire après 10, 10, 10, ce qui reste à franchir pour être à 100%. On a fait de beaux efforts quand même.
Professeur Françoise Barré-Sine aussi.
Plus de, environ 47%, je crois, des nouvelles infections sont quand même dans les populations clés. Et ça, faut quand même pas les oublier parce que finalement, si on ne peut pas arrêter non plus cette épidémie aujourd'hui, c'est que ces populations vulnérables ne sont souvent pas prises en considération, qu'il y a toujours de la stigmatisation, de la discrimination et voire des méthodes répressives dans un certain nombre de pays, y compris d'ailleurs sur le continent africain.
Un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest pénalisent par exemple l'homosexualité. Donc, tant qu'on ne peut pas accéder à ces personnes, elles ne peuvent pas vivre à visage découvert, c'est forcément difficile d'aller vers elles, même si les communautés, les associations font un travail de terrain pour justement les atteindre.
Je ne pense pas qu'on pénalise. Je pense qu'on stigmatise, qu'on n'autorise pas. Camille Anouma pour en dire plus, mais je ne connais pas de pays d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui pénalise en tant que tel.
Le Sénégal. Je ne polémique pas, je cite un fait.
Ce qui se passe aujourd'hui, au-delà de cette population homosexuelle, qui n'est pas le véritable driver de l'épidémie en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le driver, je ne sais pas, en bon français, ceux qui conduisent l'épidémie. En fait, nous avons encore une population, une augmentation des contaminations chez les jeunes filles. Il ne faut pas se tromper de cible. De 15 à 25 ans, où on voit qu'il y a une véritable épidémie de ces jeunes qui sont pas faciles à atteindre et qui sont contaminés majoritairement par des adultes qui ne se dépistent pas. Donc il faut pas vraiment se tromper de cible. Il y a cette population d'homosexuels, de travailleuses du sexe, de toxicomanes qu'on n'arrive pas à bien prendre en charge. On a de bons exemples tout à l'heure qu'on devrait pouvoir dupliquer et passer à échelle. Mais il s'avère qu'aujourd'hui dans nos pays, il y a une épidémie chez les jeunes filles. Et ça, les chiffres sont clairs. Hein.
Et c'est l'importance aussi de bien avoir la photographie des épidémies en fonction des pays, en fonction des régions et des situations spécifiques. Je vous donne la parole tout de suite. Vous voulez réagir justement, on citait peut-être l'Afrique de l'Ouest. Docteur Camille Anouma, vous vouliez réagir?
Oui, je pense que c'est plusieurs problèmes en même temps. Professeur Serge Rollier a raison d'évoquer la problématique des jeunes filles. Mais je crois aussi que les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes dans nos pays ont une contribution assez importante en matière d'incidence du VIH. Clairement, sur les quelques études qui ont été faites, c'est quand même un peu plus de 6% personnes années. Ensuite, à cause justement de ces problèmes de stigmatisation, de discrimination et des difficultés aussi à avoir accès aux soins, il y a que dans ces populations, il y a beaucoup aussi de bisexuels. Donc on n'est pas capable aujourd'hui dans nos différents pays de chiffrer de façon assez précise le nombre de personnes ayant des rapports homosexuels. Je ne dis pas le nombre de personnes étant homosexuelles, je dis ayant des rapports homosexuels. Donc ça aussi, ce sont des éléments à prendre en compte qui jouent une grande importance dans la dynamique de l'épidémie.
Alors, on va revenir sur la question qu'on abordait tout à l'heure, davantage de personnes sous ARV, ces fameux objectifs des 3,90. On a parlé parmi justement ces objectifs affichés d'avoir ce traitement durable, une bonne observance, traitement adapté, et aussi des personnes qui supportent bien ces traitements, qui ne résistent pas à ces traitements, puisque l'organisme peut éventuellement développer des résistances. On en parle avec vous, docteur Dominique Mamboun-Sonde. Je disais tout à l'heure, vous êtes chef du projet de recherche sur les résistances du VIH aux antirétroviraux au Congo-Brazzaville. Votre projet s'appelle Résistance. Quand est-ce qu'il a été initié?
Alors, en fait, il y a l'initiative 5% a lancé un appel à projet en 2015. Dont l'objectif était justement de regarder cette surveillance des résistances chez les personnes qui n'ont jamais pris de traitement, mais aussi chez les personnes qui sont sous traitement. Donc le projet a été actuellement mis en œuvre par la Croix-Rouge française. Et ça a démarré depuis 2017, en début 2017. Et l'objectif, c'est justement de regarder est-ce que chez les personnes qui démarrent le traitement, il n'y a pas déjà un certain nombre de personnes qui sont résistantes à ces médicaments. C'est ce qu'on appelle les résistances primaires ou transmises. Mais aussi, chez les personnes qui sont sous traitement, Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'observance? Est-ce qu'il n'y a pas des résistances qui apparaissent? Le professeur Éolier a bien parlé des 3,90, mais les 3,90, pour les atteindre, il faut déjà que les traitements marchent. Donc c'est très important de s'assurer dans
puisque
les pays.
Puisque le dernier de ces 90, c'est la charge virale nulle. Donc, si le médicament ne marche pas, la charge virale ne va pas être nulle,
forcément. Effectivement. Donc l'OMS est très regardante là-dessus. C'est pour ça que les pays doivent absolument faire des efforts pour étudier ces prévalences et justement pour adapter les protocoles thérapeutiques qui se mettent en œuvre dans ces pays-là.
Françoise Barré-Sinoussi, je me tourne vers la chercheure. Quand on dit résistance primaire, pour que nos auditeurs comprennent bien, comment ça se fait que le corps qui reçoit un médicament qu'il ne connaît pas soit déjà résistant ?
Quand quelqu'un est porteur du VIH, il n'est pas porteur d'un seul virus. Il est porteur de sous-populations de virus, tous légèrement différents les uns des autres. Et parmi ces populations de virus, il y en a certaines déjà qui sont résistantes au traitement. Dès l'instant où le traitement est arrêté, c'est elles qui vont prendre le dessus. Et donc, c'est celles-là qui vont apparaître majoritairement chez les patients qui arrêtent leur traitement, malheureusement.
Et c'est pour ça, docteur Dominique Mamboud-Sondé, que dans votre projet, vous, en quelque sorte, j'ai parlé trivialement, vous décortiquez le virus. Ça s'appelle le génotypage. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, en fait, c'est un système de séquençage. On va regarder les gènes qui sont sur le virus et regarder quels sont les gènes, les mutations qui ont apparu sur ce virus. Et il y a des mutations dont on sait que ça va générer une certaine résistance à certains médicaments. Donc, quand vous faites ce génotypage chez un patient, vous pouvez voir chez le patient quel médicament marche et quel médicament ne marche pas. Donc, voilà le principe. Pour faire simple, du génotypage qu'on fait chez les patients.
Vous dites pour faire simple, mais c'est une technologie très complexe.
Absolument.
Mais en même temps, cette technologie complexe, on peut dire, elle ne sert à rien si les personnes ne peuvent pas suivre l'évolution de leur charge virale. Et c'est aujourd'hui encore en Afrique un énorme problème, être capable de régulièrement voir où on en est avec la maladie.
Effectivement, c'est la première des choses, c'est effectivement la charge virale, parce que pour savoir si le traitement marche ou ne marche pas, il faut déjà qu'on fasse la charge virale. Et d'ailleurs, dans les indicateurs d'alerte précoce de l'OMS, on surveille également est-ce que dans les centres de prise en charge, la charge virale est régulièrement réalisée. C'est un examen essentiel et je pense que, d'ailleurs, à la conférence, on en parle beaucoup. Il faut vraiment que tout le monde fasse des efforts pour qu'un patient ait au moins une charge virale par an. Cela va déjà permettre de savoir à quel moment le traitement ne marche plus et prendre rapidement des décisions thérapeutiques pour ces patients.
Professeur Serge Éolier, je voudrais du concret avec vous. Pourquoi les gens n'arrivent pas à faire régulièrement une charge virale ?
La charge virale est un outil merveilleux. J'ai la chance d'avoir Françoise Barré-Sinoussi en face de moi et je crois que on a tous plaidé pour que la charge virale soit l'outil de référence pour l'évaluation du traitement antirétroviral. Mais l'outil virologique n'a pas suivi la mise à disposition des médicaments. Et les cliniciens, quand ils demandent un examen, ils veulent avoir le résultat en temps réel, au plus tard, le lendemain. Je fais un parallèle avec les CD4. On a eu des CD4 qu'on pourrait dire au lit du malade, qu'on appelait point of care, en bon français. Et en demandant l'annulation des CD4, nous avions le résultat dans la journée ou dans l'heure. Aujourd'hui, pour avoir une charge virale, le temps de réception de la charge virale est minimum de 2 semaines à 6 mois. Donc je répète, et je le dis devant les auditeurs et à ceux des laboratoires qui m'écoutent, la charge virale n'est pas un outil pour le garder au laboratoire. Le résultat de charge virale n'est pas un outil pour le donner à celui qui gère la base de données. Il faut l'amener au clinicien, il faut l'amener au patient, parce que le patient veut savoir quel est son résultat. Nous demandons tous des charges virales. Mais si on n'a pas prévu la quantification des tests de charge virale en fonction de la population qu'on a sous traitement, si on n'a pas prévu le deuxième test de charge virale pour contrôler si le patient n'est pas observant, à ce moment-là, on va se retrouver en rupture de charge virale et nous, les cliniciens, on se dira, bah, apparemment, cet outil n'est pas vraiment, il n'est pas utile. Donc, il faut que, entre cliniciens et dans le système de santé de prise en charge d'infection à VIH, on réduise les délais de rendu des résultats.
Ça veut dire que c'est un travail commun, c'est vraiment quelque chose, une amélioration, mais qui peut être aussi du côté du matériel, mais aussi de la façon de travailler.
C'est tout un système.
Professeur Françoise Barré-Sinoussi.
Le développement de tests de charge virale qui sont de plus en plus simplifiés, qui peuvent être utilisés au lit du malade. Et tout cela, ça commence à faire bouger les choses. Mais c'est vrai ce que dit Serge, il y a un retard immense dans la mise en œuvre de la charge virale. Alors pourquoi aussi des fois c'est si long ? C'est parce que pour faire un test de charge virale, si on utilise un test, c'est pour faire beaucoup de charge virale à la fois. Et donc, on attend, et les gens de laboratoire attendent d'avoir suffisamment de charges virales à faire, parce que sinon, ça va coûter beaucoup plus cher, et le test, il va être utilisé pour un patient, alors que, en fait, il peut être utilisé, je schématise, pour 100 patients. Donc, il faut adapter tout ça, et puis, il faut faire des pressions qui n'ont pas été suffisamment faites, à mon avis, sur les compagnies de diagnostic qui commercialisent ces charges virales.
On a travaillé sur les médicaments, mais pas forcément là-dessus.
Mais alors, moi je dis à mes petits amis activistes, mais qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas seulement cibler ceux qui vendent les médicaments, il faut aussi cibler ceux qui vendent les réactifs de laboratoire.
Toute la chaîne. Toute la chaîne. Alors justement, l'objectif avec les traitements, c'est bien de rendre cette charge virale indétectable. Ça a été redit hein, ici à Amsterdam. Charge virale nulle, contamination nulle. Hein, c'est assez mathématique, assez simple.
U égale U.
Voilà, U égale U, c'est la formule magique. Ce qui nous amène, professeur Françoise Barré-Sinoussi, tout à l'heure, vous l'avez évoqué très rapidement, à évoquer l'un des grands sujets actuels de la recherche, les cellules réservoirs. Pour l'auditeur de Priorité Santé, pour moi-même, explication simple, s'il vous plaît.
L'explication simple, c'est la suivante. J'évoquais tout à l'heure que le virus, y compris sous traitement, même si on ne le détecte pas dans le sang, en fait, il est toujours là. Et il est caché dans le matériel génétique des cellules. Et ces cellules, c'est des cellules qui dorment, qui se multiplient pas ou peu. Et donc, ce virus, il est là très bien. Et si on arrête le traitement, cette cellule, elle est réveillée et le virus, il ressort. Alors cette cellule où il dort, on l'appelle le réservoir. Ces cellules qui dorment, elles sont partout dans le corps. Hein. On parle du sang, souvent. Mais en fait, elles sont présentes au niveau des tissus génitaux, elles sont présentes au niveau des ganglions, elles sont présentes au niveau de l'intestin, elles sont y compris au niveau du cerveau. Donc, c'est un gros problème, ces réservoirs, justement, pour aller vers un traitement curatif, ou au moins d'un traitement qui permettrait d'être utilisé seulement pendant un temps, et que la personne contrôle par elle-même son infection.
Parce qu'aujourd'hui, quand on est sous ARV et si on arrête, eh bien, ce qui est dans ces petits réservoirs, ça ressort, je sais faire des images un petit peu, et ça recommence.
Ça recommence, la cellule se réveille, le virus se réveille au sein de la cellule, et hop, il se réplique à nouveau, il se multiplie à nouveau.
Professeur Barré-Sinoussi, c'est quoi les stratégies aujourd'hui pour essayer d'atteindre ces fameux réservoirs?
Il y en a plein, parce que pour l'instant, on est complètement dans l'espace de la recherche. Il y a justement essayer de réveiller, d'activer ce virus qui dort et tout de suite d'y ajouter des stratégies qui vont tuer la cellule où il va être réveillé. Parce que si on réveille et qu'on fait rien, le virus il va se multiplier partout. Donc il faut la tuer immédiatement. Donc on combine des molécules qui sont des drogues avec d'autres stratégies qui stimulent la défense immunitaire. Puis il y a des stratégies intéressantes à base d'anticorps neutralisants hyperactifs que les chercheurs ont identifié ces dernières années et qui semblent être une bonne approche justement pour à la fois bloquer le virus et à la fois tuer la cellule. Ça, c'est quand même une approche intéressante. Il y a des approches qui sont utilisées dans le domaine du cancer, qui sont aussi là quelque chose d'intéressant. On s'est aperçu que les cellules réservoirs que je mentionnais, elles ont sur leur surface des protéines que l'on retrouve sur les cellules cancéreuses et qui sont justement les protéines que l'on cible, les nouvelles thérapeutiques du cancer ciblent ce type de molécules. Donc il y a des études en cours chez des patients, pas seulement VIH positif, mais aussi chez des patients qui malheureusement développent des cancers et qui ne répondent pas aux thérapeutiques classiques du cancer. Eh bien là, on utilise ces nouvelles thérapeutiques, on regarde quel va être l'effet sur les réservoirs. Est-ce qu'on va diminuer la taille de leurs réservoirs viraux? Est-ce que l'on va récupérer leur défense immunitaire? C'est ce type d'études qui sont en cours. Vous voyez ça. Et puis la thérapie génique aussi, j'ai oublié de mentionner. Enfin bref, c'est très très large en ce moment, mais il faut faire ça. Il faut faire ça pour essayer de trouver quelle va être la meilleure stratégie, au moins pour avoir une rémission durable.
Alors, pour poursuivre sur ce chapitre de la recherche, professeur Serge Ollier, bien sûr, quand on parle du sida, on pense vaccin. Il y a eu des dernières publications dans la revue The Lancet, essais conduits en Afrique du Sud. Vous pouvez nous parler de ces dernières pistes, hein. On ne va pas dire avancées, on ne va pas dire succès, on va dire pistes.
Moi, je suis dans la stratégie thérapeutique réellement, dans la prise en charge des patients. Nous avons tous un groupe au niveau français de la NRS, au niveau de l'INSERM, où on discute des pistes vaccinales. Il s'avère que les chiffres que l'on a sur ces stratégies vaccinales, les résultats que l'on a, sont pas au niveau que l'on voudrait, mais ça vient pour compléter la prévention biomédicale, c'est-à-dire que ça viendrait en rajout de ce que l'on a comme tout élément de la prévention biomédicale. On parle de la PrEP, on parle des moyens de contraception mécanique, on n'est pas à des taux de protection vaccinale qui pourraient nous permettre de le recommander en approche santé publique. Les publications, elles sont faites pour encourager, elles sont faites pour montrer qu'on a des résultats probants. Je donne un exemple qui est assez simple, où il faut toujours utiliser les résultats de la recherche vaccinale. C'est le vaccin contre le palu. On a un taux de protection qui est aux alentours de 50-60%. Mais lorsqu'on combine avec tous les éléments de la prophylaxie contre le palu, on arrive à contrôler le paludisme. Mais pour le moment, on n'en est pas là.
Pas le vaccin que les gens attendent, espèrent en tout cas. Professeur François Brisson
aussi. Aussi dans le domaine de la recherche vaccinale qui sont intéressantes, j'évoquais très rapidement pour les traitements du futur, les anticorps à activité hyper neutralisante. Ben, ces anticorps, on apprend qu'ils fonctionnent pas seulement et probablement pas par cette activité justement neutralisante, mais par d'autres mécanismes. Et il y a des essais vaccinaux qui sont en cours aujourd'hui avec ce type d'anticorps, avec la volonté de vouloir provoquer, induire ce type d'anticorps. Et j'en parlais avec un collègue américain hier. Il y a des résultats d'essais vaccinaux qui vont sortir dans 18 mois à peu près. Donc, alors attendons.
On va attendre. Alors des pistes de recherche, d'action, extension des traitements par antirétroviraux, à la croisée des deux pour réduire les risques, c'est toujours quelque chose d'essentiel. Traitement préventif anti-VIH, prophylaxie pré-exposition, c'est la PrEP hein, en abrégé. On va sûrement dans la suite de l'émission utiliser simplement ce terme de PrEP, un outil pour limiter les nouvelles contaminations. Et on peut le dire, hein, docteur Camille Anoma, ce dispositif, cette PrEP, eh bien ça marche. Vous dirigez l'ONG Espace Confiance. Vous travaillez depuis près de 25 ans auprès des populations clés dans la région d'Abidjan. On va d'abord rappeler, on en a parlé tout à l'heure, qui étaient ces populations clés. La PrEP, ça se passe comment avec justement ces personnes que vous essayez de cibler?
Alors, ce que je dois dire, c'est que on participe à une étude multicentrique avec un certain nombre d'associations en Afrique, donc au Mali, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d'Ivoire. Et en fait, cette étude, c'est avec une question essentielle, c'est comment mettre en œuvre une offre de PrEP adapté aux hommes ayant des rapports sexuels avec aux hommes dans le contexte de nos pays. Et donc, cette étude, c'est l'acceptabilité et la faisabilité de la PrEP chez les HSH au sein d'offres de prévention combinées dans donc les associations de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, les questions qu'on s'est posées, c'est simplement, est-ce que la PrEP, donc, qui est utilisée dans les pays du Nord, est-ce que cette PrEP est désirable dans les pays du Sud, surtout chez des populations stigmatisées, donc comme je disais tantôt, avec une incidence et une prévalence assez élevée. Donc, est-ce que cette PrEP, elle est acceptable? Est-ce que les populations sont capables d'avoir une bonne observance à la PrEP, aussi au dépistage trimestriel VIH? Parce que c'est important de dire que sont mis sous la PrEP des personnes quand même qui sont séronégatives, donc avec un suivi trimestriel en ce qui concerne le VIH. Est-ce qu'il y a bonne tolérance, quelle que soit la méthode, que ce soit la méthode quotidienne, que ce soit la méthode à la demande?
Ça veut dire, vous dites quotidienne à la demande, il y a des personnes qui vont prendre ça tous les jours comme un médicament,
voilà.
Et d'autres, si elles savent qu'elles ont un rendez-vous, une aventure qui se prépare, on le prend avant le rapport.
Exactement.
Voilà.
Et donc, quelles seraient aussi les autres évolutions en ce qui concerne les autres méthodes de prévention, utilisation du préservatif, etc. L'incidence des IST dans ces groupes, parce que c'est quand même un élément important, et je pense que les études avant les nôtres ont quand même démontré que la PrEP aussi, la présence de la PrEP faisait qu'on avait aussi des incidences un peu plus élevées au niveau des IST. Donc c'est important de pouvoir le surveiller au niveau de nos études. L'efficacité dans la vraie vie, donc de cette PrEP dans nos conditions, c'était démontré déjà efficace dans les pays du Nord, et éventuellement aussi la surveillance de résistance dans ces différents groupes. Et puis le coût réel de cette PrEP et aussi le coût efficacité de la méthode. Après, il y a un certain nombre de facteurs qui sont favorables. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, le Programme national de lutte contre le sida a commencé à engager des discussions pour mettre en place un guide sur l'utilisation de la PrEP. Je sais aussi que récemment, l'OMS a donné des directives en ce qui concerne donc l'utilisation de la PrEP pour les médecins prestataires, pour les pharmaciens, pour les conseillers communautaires et même pour les utilisateurs de la PrEP.
Et justement, le grand public se demande pourquoi la PrEP et pourquoi pas le préservatif? Je pose la question, vous avez la réponse, je sais, mais je vous la pose quand même.
Non, c'est-à-dire que on est dans une approche combinée. Donc c'est plusieurs méthodes à la fois, et donc c'est pas une méthode contre l'autre. Il faut respecter le fait aussi qu'il y ait des personnes qui ne sont pas pro utilisation du préservatif, et donc c'est important d'avoir cette panoplie de méthodes qui permettrait donc de pouvoir être efficace. De toutes les façons, dans ce que nous avons fait nous comme étude, c'est que on a suivi des personnes de façon trimestrielle, donc des cohortes de MSM, et on s'est rendu compte que dans des conditions où ils avaient le dépistage VIH tous les 3 mois, le dépistage des IST, on arrivait quand même à des incidences relativement élevées. On n'est pas les premiers, ça s'est observé déjà dans d'autres pays. Donc la nécessité donc, d'avoir cette approche combinée en matière de prévention.
Avec, encore une fois, on le comprend en vous écoutant, s'adapter au maximum à la réalité des gens, pas vouloir dire c'est comme ça qu'on fait, mais c'est comme ça que ça se passe, tout simplement.
Ouais.
Voilà, professeur Serge Géolier, avec le docteur Anouma, on a évoqué rapidement cette situation dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Pour revenir à la situation dans les États d'Afrique subsaharienne, question clé de l'accès aux populations, question clé de la stigmatisation, on fait un état des lieux, est-ce que les choses avancent? Est-ce qu'aujourd'hui, on vit mieux, par exemple, en étant séropositif qu'avant en Afrique de l'Ouest, au-delà, bien sûr, de la prise en charge médicale? Est-ce que ça se passe mieux, on va dire, dans la communauté, au village, à l'école, dans la famille?
Non, je pense que l'Afrique de l'Ouest, c'est pas un problème de stigmatisation. On dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a 500 000 personnes infectées par le VIH. On a à peu près 60% d'entre eux qui sont dépistés. Donc, pour faire un calcul simple, il nous en manque encore 150 000. Et on peut pas stigmatiser des gens qu'on ne connaît pas. Il y a certaines catégories, encore, Camille a parlé des hommes ayant des rapports
sexuels. Est-ce que c'est pas plutôt la peur de la stigmatisation? Les gens anticipent en disant, on va penser ça de moi, donc je ne vais pas aller là. C'est ce qu'on a vu, par exemple, quand on va dans des centres de soins. On met tout un dispositif un petit peu pour que les gens ne se fassent pas repérer quand ils vont justement dans le pôle VIH. On l'insère dans d'autres centres de traitement pour justement ne pas être vu comme malade ou comme séropositif. Il y a quand même tout un tas de stratégies pour passer incognito.
En réalité, je répète, nous avons en Côte d'Ivoire 1800 centres de traitement. Le CTA Brazzaville, il est dans l'hôpital. C'est un centre de traitement ambulatoire qui est fréquenté sans qu'on sache, on ne dit pas qu'on est stigmatisé ou pas. Il n'y a pas de différence entre le Congo et la Côte d'Ivoire. C'est pas un problème de stigmatisation. J'ai tout donné l'exemple. Mon service à l'époque, c'était un service où on avait peur de venir parce qu'on mourait. Aujourd'hui, on vient parce qu'on sauve la vie. On a accès au traitement, on les soigne. Et on a tellement multiplié, décentralisé qu'il n'y a plus de centre SIDA. Il y a des médecins, peut-être, qui sont identifiés SIDA parce qu'ils n'arrivent pas encore à prendre des patients. Et je reviens à ce que j'ai dit. Pour moi, une des grosses difficultés dans nos pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est l'absence de délégation des tâches. C'est pas suffisamment fait. Si on permettait à tout le monde de traiter, il y aurait pas de stigmatisation en disant c'est le docteur Isk qui soigne ou qui ne soigne pas. Je dirais un mot sur la PrEP. La PrEP peut être un cas de stigmatisation. On aura un problème d'organisation parce qu'il s'agit de sujets négatifs. Et donc, il faut donner des produits à des personnes qui sont pas infectées, qui refuseront d'aller dans les centres où on est infecté. Ça, c'est un obstacle qui va arriver. C'était simplement une parenthèse que je voulais faire. Donc, pour revenir à cette notion de stigmatisation et de discrimination, il s'avère qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on a eu des milieux associatifs qui ont été assez forts. Je dis « a été assez fort » parce qu'il faut qu'on les relance, qu'on les rebooste. Il leur faut un nouveau message pour qu'ils puissent être dynamisés. N'oubliez pas encore que dans nos systèmes de santé, nos patients qu'on prend en charge, la majorité d'entre eux arrivent malades. On a parlé de tester et traiter. On n'arrive même pas encore à atteindre ces populations bien portantes. Où elles sont, je ne sais pas. On a multiplié les centres de dépistage. On n'arrive pas à dépister les patients. Donc la peur dont vous avez parlé, je crois que c'est un problème qui est évident. Ils ont encore peur de se faire dépister. Ça, il faut qu'on franchisse cette étape-là.
Docteur Anouma, vous vouliez réagir, Camille Anouma?
Oui, justement, sur la fin de ce que vient de dire le professeur Houllier, la peur de se faire dépister. Mais je crois que c'est lié à la perception du sida dans nos populations. Je crois que tout le problème est là. C'est l'image du sida. Vous êtes séropositif parce que vous êtes mal comporté. Vous n'avez pas eu l'attitude qu'il fallait. Et ça demeure dans l'esprit des gens. Et ça constitue une barrière d'auto-stigmatisation en disant, moi, si je sais que quelqu'un est séropositif, voici le regard que je porterai vers cette personne. Si moi, demain, je suis séropositif, voici le regard qui sera porté vers moi. Ça se vit dans les familles, ça se vit dans les communautés. Et c'est quand même un frein aujourd'hui, oui, au dépistage. C'est quand même fondamentalement un frein. Nous, on voit tous ces problèmes de déni famille avec des populations qui sont obligées de se dépister 3, 4, 5 fois avant d'accepter leur statut. Donc voilà, c'est quand même un vrai problème.
Avec cette fameuse question du dépistage, on va en parler, ça relie les deux. Pas suffisamment de personnes dépistées, l'implication de davantage de personnes de la communauté, démédicalisées, les associations plaident pour cela depuis des années. Sur le terrain, ça se traduit par l'accès aux autotests. Docteur Anna Laura Rose, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable technique dans l'équipe stratégie d'UNITED. Alors, UNITED finance des projets, un projet d'autotest. Ça fait partie des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Une question pratique pour commencer, à quoi ressemblent ces autotests ?
Tout le monde probablement connaît un test de dépistage de grossesse. En effet, l'aspect physique est très très proche. Il s'agit d'une petite cassette qui permet de faire un test. Cette fois-ci, c'est pas pour la grossesse, c'est pour le VIH. La spécificité de l'autotest est que c'est un test de dépistage pour le VIH que la personne peut faire soit tout seul ou avec la personne de son propre choix, dans le contexte qu'il ou elle décide et au moment qu'il ou elle décide.
Quel fluide corporel est testé ?
Il y a des tests qui utilisent la salive et des tests qui utilisent le sang.
Et donc la personne doit en quelque sorte se piquer, un peu comme on ferait avec une petite aiguille, extraire une goutte, un peu comme ça se fait pour le paludisme, pour la goutte épaisse, pour justement prélever cette petite quantité de sang procéder au test.
C'est exact. On utilise une petite aiguille pour poncer le bout du doigt, normalement, pour ensuite recueillir une goutte de sang. C'est pas grand-chose, c'est vraiment une petite goutte qui suffit pour réaliser le test.
Alors, ce qui est important, c'est d'étendre ces dépistages, ces autotests. On parle de démédicalisation. Est-ce que c'est sécurisant pour une personne, justement, de faire un test aussi important, tout seul, sans un médecin?
Alors, c'est une question que nous nous sommes posée pendant très longtemps. Et il faut dire qu'il y a encore quelques années, il y avait une grande partie de la communauté qui se posait ces questions et on avait vraiment des inquiétudes sur la réaction que les personnes qui réalisent ce test pouvaient avoir en découvrant, par exemple, son infection par le VIH sans être dans un cadre médicalisé. Aujourd'hui, par contre, nous avons des études, des résultats qui nous démontrent qu'en fait, avec une bonne information et un soutien qui peut se faire aussi via l'information qui est contenue dans le test, ce test ne pose aucun risque supplémentaire et on ne voit pas des risques particuliers qui sont associés aux résultats.
D'autant plus que ce test, on peut le faire tout seul, mais surtout, on peut le faire avec des membres de la communauté, avec des acteurs de terrain qui sont là pour vous aiguiller et après, éventuellement, vous prendre en charge d'un point de vue psychologique au moment de la réalisation, si jamais eh bien, ce diagnostic est positif.
Tout à fait. Je pense que c'est important de souligner que l'autotest ne veut pas dire que la personne le réalise complètement seule,
c'est
de
pas
manière
un solo test.
Isolée. Tout à fait, de manière isolée. C'est vraiment un test qui a pour but de venir se rajouter aux approches de dépistage qui existent pour compléter l'éventail des différentes approches, mais peut se faire effectivement tout à fait avec la communauté et ne se fait pas en isolation complète.
Alors, il y a une volonté générale, il y a des projets de terrain. Un projet sur lequel vous avez un petit peu de recul en Afrique australe, projet STAR, et un projet là qui est lancé pour l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement au sujet de ces deux approches différentes dans le temps et dans la géographie?
Il nous semblait une évidence de faire si que l'introduction de l'autotest dans les pays du Sud se fasse le plus facilement et le plus rapidement possible. C'est pourquoi en 2015, déjà, UNITED a décidé d'investir dans ce domaine, a été heureux de pouvoir soutenir un projet qui s'appelle l'initiative STAR, qui est porté par des partenaires, à l'occurrence le partenaire principal est PSI. Ce projet en 2015 a débuté en 3 pays d'Afrique subsaharienne, le Malawi, Zambie et Zimbabwe. Ensuite, il a été étendu à l'Afrique du Sud, Eswatini et le Zoutou.
Les autos, Afrique du Sud, Eswatini.
Et Swaziland.
Voilà.
Et nous avons vu les premiers résultats sont extrêmement encourageants. Nous avons vu que l'autotest arrive effectivement à dépister davantage les hommes. C'est une population qui est moins dépistée. Et on voit qu'effectivement, il y a un pourcentage qui est plutôt significatif de personnes qui n'ont jamais testé pour le VIH avant et qui peut-être n'auraient pas testé parce que le centre de santé n'était pas le lieu approprié pour eux. Et nous souhaitons désormais utiliser ce résultat de ce pays que je viens de citer pour aussi accélérer l'introduction de l'autotest en Afrique de l'Est. Et nous avons pour cela lancé un projet qui vient d'être signé ces jours-ci. Nous sommes vraiment heureux de travailler avec nos partenaires et amis Soultis et IRD qui vont travailler dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, où vraiment il y a une urgence d'essayer de trouver ces personnes qui sont infectées par le VIH et qui ne le savent pas. Et nous pensons que vraiment l'autotest est une grande partie de cette solution.
Merci beaucoup, docteur Anna-Laura Rose. Je rappelle que vous êtes responsable technique dans l'équipe stratégie d'UNITED.
Abidjan, 97.6 FM.
Et on se retrouve dans Priorité Santé pour poursuivre cet état des lieux à l'occasion de la conférence internationale d'Amsterdam sur le sida, toujours en compagnie de nos 4 invités ici au centre de presse. Docteur Camille Anoma, on vient de parler de ces autotests, de la PrEP, hein, ce que vous faites en Côte d'Ivoire, votre expérience. On voit vraiment que les approches, les expériences s'attachent au mode de vie des populations. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été permis par cette conjonction entre médecins et acteurs communautaires.
Oui, tout à fait. Nous, on salue, je pense, l'arrivée de l'autotest en Côte d'Ivoire parce que, comme on le disait dans cette émission, on a quand même encore une grande frange de personnes vivant avec le VIH qui ignorent leur statut. Donc, on pense que l'autotest pourrait être donc un moyen pour pouvoir toucher ces personnes et donc faire en sorte que, au niveau des 90, au niveau de la Côte d'Ivoire, cela puisse être amélioré. En niveau communautaire, il y a déjà un gros travail qui est fait en matière de dépistage dans les communautés. Je pense que la Côte d'Ivoire, très tôt, a accepté de démédicaliser de ce point de vue-là. Donc, il y a des acteurs communautaires qui ont des formations qui vont dans les communautés pour offrir donc ces services. Et donc, bien sûr, l'autotest sera un moyen supplémentaire pour pouvoir toucher davantage de personnes.
Tout à l'heure, avant cet entretien, on a parlé, docteur Françoise Barré-Sinoussi, des questions de stigmatisation, sans parler toutefois de répression, on parle de stigmatisation. C'est pas parce qu'on est chercheur qu'on n'est pas préoccupé, justement, de pouvoir voir le fruit de notre travail arriver jusqu'à sa cible. C'est quelque chose, en tout temps, d'essentiel, surtout pour le sida, peut-être.
Bon, pas seulement, à mon
pour
avis,
toutes les maladies.
Sida, c'est quelque chose justement à développer dans d'autres pathologies. Mais pour le VIH-Sida, ça a été la première fois et je pense que c'est quelque chose à développer. Effectivement, pour un chercheur, quel qu'il soit, il essaye d'apporter des connaissances, il essaye, à travers ses connaissances, d'apporter de nouveaux outils, que ce soit pour le dépistage, que ce soit pour la prévention ou le traitement. Et si on voit qu'au bout du terme, ces outils ne sont pas accessibles aux personnes concernées, forcément, on se dit, c'est pas possible, on a perdu notre temps, notre argent, et surtout, on constate nous-mêmes que les personnes elles-mêmes continuent à mourir. C'est inacceptable, quelque part. Donc voilà comment les chercheurs dans le domaine du VIH-Sida sont devenus, pour certains d'entre eux, un petit peu activistes.
Des militants aussi, hein.
Totalement militants. Parfois même plus militants aujourd'hui que les activistes eux-mêmes, je dis souvent.
On vous entendait tout à l'heure rappeler un petit peu à la révolte avec les laboratoires, c'est un petit peu ça, c'est de dire, nous on a besoin de ça aussi en tant que chercheurs pour avancer, il faut que la société suive.
Il faut que la société civile suive derrière, il faut effectivement qu'on travaille complètement tous ensemble, comme on a su le faire réellement dans le domaine du VIH-Sida, faut pas que ça s'arrête, et pour moi, faut même que ça s'étende à d'autres pathologies, l'hépatite C, certainement en premier, puisque là, il y a des traitements qu'on peut guérir, mais aussi la tuberculose, mais aussi les cancers, mais aussi bien d'autres pathologies qu'on a évoquées durant cette émission.
Professeur Serge Ollier, c'est aujourd'hui une dynamique essentielle justement d'associer d'autres maladies, ces co-infections, maladies chroniques, pas seulement, autres maladies infectieuses. Il faut avancer tous ensemble, sida compris, à tout cet ensemble de pathologies.
Oui, parce que je ne crois pas au VIH-log, spécialiste du VIH. On prend en charge toutes les pathologies. Il n'y a pas un patient qui vient me voir qui a de la fièvre parce qu'il est infecté par le VIH, parce qu'il a une autre pathologie. On parlait de dépistage tout à l'heure. La stratégie, c'est de faire un dépistage groupé aujourd'hui, de combiner l'infection à VIH, l'infection à VIHB, à VIH, voire la syphilis. Tout à l'heure, Françoise Barré-Sinoussi parlait des nouveaux outils qu'on aura au lit du malade. Il ne s'agit pas de faire l'erreur de les mettre dans les zones reculées. Il faut que ces outils soient disponibles pour nous aussi dans les hôpitaux pour pouvoir prendre des décisions rapidement. Et lorsqu'on fait un essai thérapeutique, la première question qu'on nous pose, quel est l'impact que vous allez avoir si vos résultats, en fonction de votre hypothèse de départ, sont positifs? Et après, il faut les transmettre, les transférer sur le terrain. Donc notre recherche, elle est très scientifique, mais il y a toujours de l'opérationnel qui est attendu derrière. La recherche n'est pas que rêve, hein. C'est la réalité à la fin.
Appliquer aussi, voilà. Appliquer dans le concret, professeur Françoise Barré-Sinoussi. Tout à l'heure, on parlait des ARV, on parlait d'une forme de chronicité, mais en même temps, attention, ne pas banaliser quand on prend des ARV au quotidien. C'est pas comme pour certaines personnes de prendre un traitement simple. On a parlé de ce contrôle de la charge virale. Il y a quand même toujours cette difficulté quand on parle du sida, à la fois ne pas tomber dans le catastrophisme et ne pas banaliser. Comment on marche sur ces deux terrains pour justement dire attention, ça va, c'est réglé? Non, c'est pas réglé. Il faut toujours rester réglé. Mobilisé.
C'est absolument pas réglé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes aujourd'hui, puisqu'il y a encore chaque année environ 1,8 million de nouvelles infections dans le monde et ça bouge pas, ça se stabilise. Donc le problème n'est absolument pas réglé et il faut continuer justement cette lutte, essayer d'atteindre toutes les populations qui peuvent être concernées. Il faut un petit peu justement prendre chacun selon ses spécificités, selon sa personnalité, pour améliorer à la fois le dépistage et la prise en charge de cette infection VIH. Malheureusement, on s'aperçoit que chez les jeunes aujourd'hui, il y a
justement
réellement
un appel
un problème,
à la jeunesse.
Un appel à la jeunesse.
Et d'ailleurs international, hein, c'est pas sud, nord, est, c'est partout.
Complètement. Et aussi, y compris pour les jeunes adolescents qui sont sous antirétroviraux, arrivés à l'adolescence, pour eux, c'est toute leur vie qu'ils vont devoir prendre ces médicaments. Et certains d'entre eux, on le sait bien, arrêtent leurs médicaments.
Problème d'observance à
donc,
cette période de la vie.
Donc, un problème d'observance, résistance aux antirétroviraux parce qu'ils arrêtent les médicaments et redémarrage de la maladie s'ils ne sont pas à nouveau pris en charge par d'autres combinaisons thérapeutiques. Donc, c'est un véritable problème. Et moi qui suis en fin, plus qu'en fin de carrière même, j'ai qu'une peur, mais une peur monstre. C'est être encore de ce monde et revoir une réémergence du VIH. Je ne voudrais surtout pas voir ça.
Donc, ce message, protégez-vous encore et toujours. Les scientifiques travaillent. Informez-vous et mobilisez-vous. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Françoise Barré-Sinoussi, hein, ravie de vous avoir reçu ici à Amsterdam. Je rappelle que vous êtes l'actuelle présidente de SIDAction Co, découvreuse du VIH. Pour ceux qui l'ignorent encore, prix Nobel de médecine 2008. Merci beaucoup à vous, professeur Serge Héolier, médecin au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville, professeur à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire. À vous, docteur Dominique Mamboun-Sondé, merci, médecin au Centre de traitement ambulatoire de Brazzaville, et docteur Camille Anoma, coordinateur national du projet PrEP en Côte d'Ivoire, où vous dirigez l'ONG Espace Confiance. Cette émission, enregistrée à Amsterdam à l'occasion de la 22e conférence de l'IAS, a été réalisée en partenariat avec Expertise France à travers l'initiative 5%, la contribution de la France au Fonds mondial. Et merci à l'équipe de Priorité Santé qui a préparé et fabriqué cette émission ici à Amsterdam. Ophélie Lassen, Victor Hull, Didier Bleu à Paris. On va se retrouver demain, hein, toujours à Amsterdam, pour parler du financement des programmes de lutte contre le sida. Quel leadership sur le plan mondial? Comment la communauté doit-elle agir pour continuer justement à mobiliser, alors que le combat contre le VIH-Sida, malgré les progrès, malgré les espoirs que l'on vient d'évoquer, est loin d'être gagné. On se donne rendez-vous demain et vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet rfi.fr, rubrique émission.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.